Nous allons lire un passage dans le livre de Josué, chapitre 6, 1 à 5. Josué, chapitre 6, 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Josué 6, 1 à 5.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi.
Merci. Mon thème de ce matin est Tout est possible à celui qui croit. C'est vrai, lorsque nous voyons dans ce passage, j'ai envie de dire, quelle victoire extraordinaire. C'est vrai, ce passage, surtout cet épisode de la vie du peuple d'Israël, est une véritable source d'encouragement pour nous. C'est vrai, la conquête de cette ville semblait tellement simple. C'était quoi? Marcher, crier, prendre la récompense, prendre la récolte. Beaucoup aimeraient reproduire fidèlement ce principe. Ça serait tellement facile. Même j'ai envie de dire que certains ont marché jusqu'à l'épuisement de leur force. Certains, bien sûr, ont crié jusqu'à l'épuisement de leur voix, mais n'ont rien, n'ont ramassé aucune récompense, n'ont ramassé aucune victoire. Quelle frustration, quelle déception. Vous savez, de telles défaites engendrent le doute, le découragement et aussi le désespoir. Parfois, ça devient une mission, quelque chose d'impossible pour nous. Nous allons voir ce matin comment affronter nos obstacles. Comment affronter nos missions qui semblent pour nous quelque chose d'impossible? J'aimerais bien souligner 3 facteurs ici dans ce passage, dans la victoire de Josué. Le premier facteur ici, c'est la crainte du Seigneur. Vous savez, lorsque les nouvelles de l'Exode d'Israël, de l'Égypte et de leur récente victoire avaient mis les gens dans la panique. Pourquoi? Nous avons un merveilleux verset qui nous rappelle de ça, que Dieu a promis à son peuple. Nous lisons dans Deutéronome 2, verset 25. Je vais répondre. Dès aujourd'hui, la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Quand je lis ce verset, je me suis posé une question. La société a-t-elle peur aujourd'hui de ce que le peuple de Dieu peut faire? Je ne crois pas. Car, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons du mal à afficher la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi avec Josué, ce n'est pas ainsi avec ce peuple d'Israël. Ils étaient un peuple conquérant, qui n'a fait aucun compromis avec l'ennemi. Mais ils ont fait confiance, ils ont fait seulement confiance à Dieu pour leur donner la victoire. Ici, dans ce passage, il agissait d'une marche triomphante qui a vraiment mis la crainte de Dieu dans le cœur de l'ennemi. Ici, au verset 2, nous voyons le deuxième facteur, la promesse du Seigneur. Je peux vous faire remarquer une chose dans ce verset que nous avons lu. Dieu a dit qu'il avait donné Jéricho à Israël avant que tout changement se produise. Dieu a donné Jéricho à Israël. Le temps du verbe, ici dans ce verset, est important. Je livre entre tes mains Jéricho. Ça veut dire que la victoire avait déjà été remportée. Tout ce que Josué et son peuple avaient à faire était de réclamer la promesse et obéir au Seigneur. C'est vrai, cette promesse est une bénédiction nouvelle, c'est une bénédiction personnelle. Mais la bénédiction de Jéricho est une chose. Notre bénédiction, on est une autre chose pour nous. C'est une autre chose pour nous. Pourquoi? Parce que la conquête de Jéricho était un fait historique qui appartient au passé. Vous savez, il y a en ce moment dans le monde des quantités de réveils spirituels. Leur bénédiction et aussi chaque bénédiction et chaque victoire est différente et propre à une personne ou à un peuple. Je suis encouragé. Je suis content de voir des victoires. Et aussi, surtout, des victoires des passés et des bénédictions des autres. Mais moi aussi, j'aimerais bien. Je désire de vivre ma victoire. Je désire de vivre ma bénédiction. J'ai aussi besoin de voir personnellement la bénédiction sur ma vie, dans mon entourage, surtout dans ma vie, pas vous, et aussi dans ma ville. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne résiste à Dieu. Même au cœur des ténèbres de ce monde, Dieu, il est toujours prêt, il est toujours ouvert et il ouvre les yeux pour nous bénir. On peut voir plein d'exemples dans la Bible. Il a sauvé, il a béni Noé au cœur d'une génération rebelle, corrompue. Il a répondu à la prière d'Anne. Il a béni au-delà de ses espérances. Jésus-Christ, quand il est descendu sur cette terre, il est descendu sur cette terre dans des circonstances historiques d'oppression. Donc, ne regardez pas vos circonstances. Dieu, il est capable d'ouvrir son ciel de gloire pour tous ceux qui ont un cœur disposé à la bénédiction. Chers amis, vous voulez vivre les bénédictions qu'ont vécues les hommes de la foi, de la Bible. Dieu cherche encore des hommes et des femmes pour bénir. Il cherche des Noé, il cherche des Moïse, il cherche des Josué, il cherche des Élie. Des hommes de la même nature que nous. Nous savons très bien que Dieu agit différemment pour chacun de nous et aussi dans chaque circonstance. Bien sûr, les bénédictions de Noé ne furent pas celles de Moïse ni celles de Josué. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre des victoires par procuration. Nous ne voulons pas aussi être des spectateurs ou des auditeurs, mais des acteurs de la victoire. Nous ne pouvons pas imiter les choses du passé, mais nous avons besoin d'une révélation fraîche. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Nous avons besoin tout simplement d'entendre que Dieu nous communique sa volonté. Maintenant, nous allons vers le troisième facteur. À partir de verset 3 à 5, le troisième facteur ici, c'est les instructions du Seigneur. Ici, la stratégie était celle du Seigneur. Marcher, crier, prendre la récompense. Aucune situation n'est trop grande pour le Seigneur à gérer. Aucun problème n'est trop difficile pour lui à résoudre. Dieu sait ce qu'il va faire. Donc, notre responsabilité consiste à attendre de lui qui nous dit ce que nous devons faire et puis obéir. Donc, on se pose une question. Comment saisir la bénédiction? C'est vrai, dans ce dernier temps, Dieu répond abondamment son esprit. Ne cesse pas de parler par son esprit, par sa parole à son peuple. Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, Dieu parle. Dieu fait des promesses personnelles pour chacun de nos vies, pour nos églises et aussi pour nos villes. Mais Dieu, il n'a pas de préférence pour une région, pour une autre ou une autre. Il n'a pas de préférence pour un peuple ou un autre. Pourquoi? Parce qu'il désire d'ailleurs qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Voilà, il y a l'espérance pour tous. Est-ce que vous croyez en votre appel? Est-ce que vous croyez en votre appel? Peut-être, on est en train de dire, nous avons un sentiment de frustration d'une vie incomplète. Chez vous, des croyants, après des années, ils ont l'impression de ne pas devenir, ne pas être devenu ce que Dieu voulait. Oui, chers frères et sœurs, vous pouvez sortir de cette situation. Non seulement vous pouvez, mais vous devrez en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu, il a une promesse pour nous. Dieu, il a dit, il a un avenir d'espérance pour nous. Nous connaissons tous ce verset dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11, qui dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et non de malheur. Oui, un projet de paix et non de malheur. Si la Bible le dit, cela s'accomplira. Quand on croit ce que Dieu dit, il le fait. Donc il est capable de redresser votre trajectoire. Si tu veux, tu peux. Ce matin, peut-être, nous disons que Seigneur, je veux, mais je ne peux pas. Je n'entre pas dans ton appel parce que ce n'est pas le sentiment que je veux. Veux pas, mais je ne peux pas. Comme je ne peux pas, je donne le sentiment aux autres que je ne veux pas. Dieu, il est capable. Il est capable de toucher ta vie et te donner ce pouvoir de vouloir. Nous désirons vivre notre victoire, notre bénédiction. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Je regarde en avant. Vous savez, dans le psaume 121, je regarde les yeux, je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il nous dit, je suis ton berger. On sait. Mais on sait que l'Éternel est mon berger seulement intellectuellement. Si nous le croyons vraiment, il va changer notre vie. Nous n'avons pas besoin de vivre dans le passé. Nous n'avons pas besoin de vivre dans le passé concernant notre vie de famille, notre vie de travail, notre vie de couple. Vous savez, je vais donner un exemple. Regardez dans la voiture. Pour regarder en arrière, il y a quoi? Il y a des rétroviseurs. Ils sont grands comme les rétroviseurs. Ils ne sont pas grands comme ça. Ils sont petits. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'avance pas en regardant en arrière. On avance en regardant le pare-brise. Le pare-brise, c'est comment? Il n'est pas petit comme ça. Il est grand comme ça. Vous savez, les gens conduisent leur vie chrétienne comme si c'était dans un char. Pardonnez-moi la comparaison, j'ai l'impression que nous avons une bourca spirituelle. On ne voit rien. On ne peut pas regarder à droite et à gauche, on ne voit rien. Tout le temps, on avance en regardant en marche arrière. Vous avez déjà fait un parcours en marche arrière, un trajet en marche arrière. Ce matin, si j'ai fait ça, je vous prêcherai comme ça avec le dos face à vous. Si tu fonctionnes avec le passé, tu vas te cogner dans le mur. Ma naissance, c'est ma naissance. Mon père, c'est mon père. Mon frère, c'est mon frère. Ma vie de famille, c'est ma vie de famille. Ma vie d'église, c'est ma vie d'église. Mais celui qui me recueille, c'est qui? C'est l'Éternel. Je veux croire que j'ai un appel de l'Éternel. J'ai un avenir, j'ai une espérance en lui. Nous ne devons pas être à la merci du péché ou des pécheurs ou de Satan. Nous sommes des enfants de Dieu vivant. Nous sommes des enfants de Dieu tout-puissant. Nous devons saisir ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que notre apôtre Paul nous a donné un ordre. Il a donné à Timothée en disant qu'un Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Nous devons, comme Josué, combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle avec tout ce qu'elle contient des bénédictions et aussi des victoires en abondance. C'est vrai, Dieu n'a pas de projet de défaite, il n'a pas de projet de malédiction pour nous, mais il a des projets de bonheur. Il a des projets de victoire. Nous devons croire cela de tout notre cœur. Voyons comment, ici dans ce passage-là, Josué est parvenu à battre Jéricho. Il a fait quoi? Il a cherché à connaître cette ville. Il a cherché à connaître cette ville. Connaissez-vous ce que Dieu veut vous donner? Faites-vous la différence entre ce que vous attendez de Dieu et ce que Dieu veut vraiment vous donner? Bien sûr, nous avons besoin d'un regard neuf sur nos bénédictions. Surtout un regard de foi. Nous n'avons pas. Il n'y a pas besoin de faire des illusions. Nous ne sommes pas un peuple naïf, bercé des rêves. Mais nous ne devons pas craindre les faits et les circonstances. Mais nous devons les voir avec les yeux triomphants de la foi. Nous connaissons bien sûr ce verset, « Si Dieu est avec nous, que sera contre nous ?» Ici, Josué a consulté Dieu, ou plutôt, c'est Dieu qui l'a consulté. Pourquoi Dieu s'est-il adressé à Josué? Parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, mais il avait un cœur disposé pour Dieu. Dieu sait très bien à qui il peut parler. Il sait très bien sur qui il peut s'appuyer aussi. Josué, comme David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Chers amis, Dieu te parle-t-il? Dieu a-t-il fait des promesses particulières? Dieu a-t-il confié ses projets pour ton foyer, pour ta maison, pour ta vie, et plus encore peut-être? Si Dieu ne parle pas, si Dieu ne te parle pas, pose-toi ces questions. Suis-je prêt à entendre sa voix? Disposé à l'écouter? Nous connaissons tous la prière du prophète Samuel. C'est la première prière d'un enfant dans la Bible. Vous savez comment il a prié? Il a dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Mais il a attendu dans la présence de Dieu pour écouter la parole, le message que Dieu a partagé avec lui. Mais quand on entend comme cela, il nous dira un jour, « Parle, serviteur, car ton Seigneur entend. » Samuel a attendu. Dieu a partagé avec lui concernant les bénédictions et aussi les jugements qui vont venir. Ici, dans ce passage-là, nous voyons aussi Dieu a communiqué son plan à Josué. Une fois qu'il a communiqué son plan à Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est mis à l'action. Les sacrificateurs se sont levés, ont porté l'arche et marché. Puis le peuple s'est levé et a marché. Nous voyons tout cela dans le verset 6 et 7. Même 5. Il y a du mouvement. Il y a de l'action quand le plan de Dieu s'accomplit. Mais 40 ans auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'était entré en Canaan. Pourquoi? À cause de leur incrédulité, à cause de la crainte, à cause du manque d'unité. Mais maintenant, ici dans ce passage-là, le peuple se lève comme un seul homme uni et ils écoutent fidèlement les ordres de Dieu communiqués par Moïse et par Josué. Souvent, le temps de Dieu est le temps où les hommes sont prêts. Dieu, il est toujours prêt à révéler la stratégie d'attaque. Le plan de bénédiction, il est toujours prêt à nous révéler, mais sommes-nous prêts à lui obéir dans tous les détails? Ici, nous voyons le peuple. Vous pouvez lire le verset 7-8. Nous voyons ici le peuple ne sait pas se rebeller contre Josué, ne sait pas lasser de tourner autour de Jéricho, ne pas murmurer, mais à demeurer dans le silence, ne pas s'assis sur le bord du chemin, mais à continuer malgré la fatigue sans s'apercevoir de signes de victoire. Êtes-vous prêt à tout cela? Sommes-nous prêts à cela? C'est une preuve de persévérance. La bénédiction et la victoire dépendent de nous, car nous faisons tous partie du plan de bénédiction de Dieu. Personne n'a dit qu'avec Dieu, tout sera rapide, tout sera facile. Non. Si nous voulons la bénédiction pour notre vie, celle de nos proches, et aussi pour notre ville et notre pays, nous sommes concernés par quoi? Par le combat de la foi. Et aussi, nous sommes concernés par la persévérance, par la patience, par l'obéissance, par l'action. Mais si nous répondons à tous ces critères, bien sûr, nous connaîtrons aussi la victoire, nous connaîtrons la puissance, nous connaîtrons le miracle extraordinaire. Nous ne pouvons pas gagner assis sur notre chaise à rêver. Parce que notre ennemi poursuit ses projets de destruction dans nos familles, dans nos vies, dans notre ville. Ici, ce peuple d'Israélite n'était pas une armée d'élite, mais c'était un peuple composé d'hommes, de femmes, d'enfants, des jeunes, des vieillards, des personnes simples, ordinaires, qui ont répondu à l'appel de Dieu et lui ont obéi. Si nous voulons obéir fidèlement à Dieu, si nous voulons obéir totalement à Dieu, ne nous fions pas aux circonstances. Avançons avec foi. Et n'abandonnons jamais. Cherchons la volonté de Dieu et accomplissons-la. C'est vrai, nous obtiendrons tout ce que Dieu nous a promis. Peut-être il a promis des âmes perdues. Il a promis un logement, peut-être un travail, peut-être un réveil pour notre ville, pour notre pays. Quoi que ce soit, quand Dieu a promis, ne doutons plus, avançons. Pourquoi? Il marche devant nous et il combat pour nous. Nous voyons ça ici dans ce chapitre 6, versets 5 et 20. C'était quoi la promesse de Dieu ici, dans ces versets-là? Alors la muraille de la ville s'écoulera. C'était passé. C'était accompli. Compter sur ses promesses et obéir à ce que Dieu nous dit de faire. C'est là que nous aurons la victoire. Bien sûr, il y a encore des murailles qui se dressent devant nous, n'est-ce pas? Mais comment vont-elles se renverser? Par des cris? Au son de trompette ou par une marche forcée? Non. Mais par une obéissance totale à Dieu. par une confiance aveugle du peuple de Dieu, ce qui permettra à Dieu d'accomplir le miracle que nous, auquel nous espérons. Auquel nous espérons. Si Dieu ne donne pas, que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous recevoir? Quand Dieu déclare qu'il a fait quelque chose à partir de ce moment-là, affaire est conclue. Ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Car il est le donateur. Nous n'avons plus qu'à recevoir avec beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance. Oui, chers amis, ce matin nous avons considéré, nous avons vu trois facteurs de la victoire de Josué. La crainte, la promesse et les instructions du Seigneur. Les instructions données par Dieu. Nos villes sont-ils si différentes de Jéricho? Nos contemporains plus rebelles que les Israélites? Bien sûr, Jéricho était une puissante ville. Elle produisait des fruits en abondance. Ses habitants ressemblaient à des colosses menaçants. À première vue, rien ne faisait penser que la conquête de cette ville serait possible. Mais comme l'a dit Jésus dans Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors quel est notre problème? Sommes-nous prêts à entreprendre notre mission qui nous semble tellement impossible? Ce qui fut possible avec Josué, peut-il être possible pour nous? Après tout, notre Dieu fut son Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen.
Amen.